Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La rentrée syndicale sous Covid s'est faite hier en France avec des cortèges masqués dans plusieurs villes. À Paris notamment, même si les militants, vous l'entendrez, ne croient pas en un mouvement dur et long, ils protestaient contre les suppressions d'emplois et pour des hausses de salaires. Pendant ce temps, le ministre de la Santé annonçait de futures restrictions sanitaires à Lyon et à Nice, deux villes où le Covid-19 circule rapidement. Un franco-turc est soupçonné de s'en être pris violemment à la communauté arménienne près de Lyon. Son procès s'est tenu hier. Nous y étions, compte rendu d'audience à suivre. Dans ce journal aussi, nous irons aux États-Unis où le vote physique débute aujourd'hui, à un mois et demi de la présidentielle. Et puis en Libye, où le chef du gouvernement veut laisser sa place. Analyse de cette stratégie dans moins de 10 minutes. Comment se faire entendre en pleine crise économique doublée d'une crise sanitaire? Une journée de mobilisation contre les suppressions d'emplois en France était organisée hier par la CGT, Solidaire et la FSU. Cheminots, personnels hospitaliers, laborantins, salariés en usine ont débrayé localement avec des perturbations assez limitées. À Paris, il y avait entre 5 et 10 000 manifestants dans le cortège, des militants un rien désabusé. Anne Lorchouin y était et elle nous raconte.
Un cortège masqué, serré de près par les forces de police et duquel émergeait une pointe de désenchantement militant. Jean-Pierre, engagé dans un parti ouvrier indépendant.
Les journées d'action, les travailleurs, ils en ont fait des centaines et des centaines. Donc c'est normal qu'il y ait un scepticisme. Nous, on n'est pas contre cette journée, mais les travailleurs réfléchissent. Est-ce qu'à partir de cette journée, ça va aboutir? Ou est-ce qu'on va perdre encore de l'argent?
Pourtant, les thèmes de revendication sont nombreux. Rafales de plans sociaux, crise économique et menaces de reconfinement. Ariane, étudiante, s'effare, elle, des conditions de la rentrée universitaire.
L'été débondé, les classes bondées, l'absence de distanciation sociale, c'est évidemment lié en fait, aux réformes de l'université depuis des années. Mais en fait, le Covid, il vient révéler l'absence de moyens qu'on a dans l'université. Et ça se fait aux dépens de la santé, des personnels, mais aussi des étudiants. Et nous, on est très inquiets de ça. La question, c'est plutôt quel plan de bataille, parce qu'en fait, moi, je n'ai aucune illusion sur le fait qu'une journée sans lendemain, ça va être ça qui va suffire à la jeunesse pour se mobiliser, obtenir ses revendications, et que ça, c'est plus la responsabilité des directions syndicales qui ne proposent pas de plan de bataille à la hauteur de nos aspirations. Nous, on ne va pas avoir d'avenir, en fait. C'est ça, la réalité.
Y aura-t-il une suite à cette mobilisation et laquelle? Rien n'a été fixé pour l'instant.
C'était Anne Lorchouin à Paris pour France Culture. Parmi les entreprises annonçant des coupes salariales en ce moment, Bridgestone a été pointé du doigt hier. Le fabricant japonais de pneus souhaite fermer son usine dans le Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent. Une réunion entre le gouvernement, les élus locaux et les syndicats aura lieu lundi à Béthune. Bridgestone qui avait reçu en 2018 plus d'1,8 million d'euros du CICE. Un crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, mis en place en 2013 par François Hollande. Bilan 7 ans plus tard avec un rapport que publie France Stratégie. Le CICE aura coûté près de 100 milliards d'euros. C'est beaucoup, disent les observateurs, mais cela a créé tout de même 100 000 emplois entre 2013 et 2017. Et cela a eu des effets indirects sur les salaires notamment. Cédric Audnis, commissaire adjoint de France Stratégie, s'en explique.
L'effet du CICE va en fait au-delà de cette estimation qu'on appelle microéconométrique de 100 000 emplois, qu'en effet, le CICE a probablement eu des effets indirects sur les salaires ou sur les prix qui ont pu générer des créations d'emplois dans d'autres entreprises. Donc c'est ce que l'OFCE a essayé d'estimer à l'aide d'une modélisation originale, mais plus fragile statistiquement, et les résultats sont alors plus élevés, on se rapproche de 200 000 emplois. Alors après, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est rapprocher ces chiffres de 100 000 ou un peu plus de 100 000 au coût annuel du CICE. Hein, donc jusqu'en 2016, le CICE coûtait 18 milliards d'euros. Donc effectivement, par rapport à d'autres politiques de l'emploi en particulier, ce chiffre ne figure pas parmi les meilleurs. Après, il faut rappeler que le CICE avait d'autres objectifs que la création d'emplois directs. Autant, par exemple, les allègements de charges sur les bas salaires ont pour objectif prioritaire de créer de l'emploi. Alors que le CICE, c'est le fameux C de CICE, avait aussi pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises qui génèrent des effets emploi, mais très indirects et donc qui sont plus difficiles à estimer.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Après Bordeaux et Marseille, le ministre de la Santé cible Lyon et Nice. Des restrictions y seront annoncées pour tenter d'endiguer la propagation de Covid-19. Olivier Véran tenait à ce propos une conférence de presse hier. Il a rappelé aussi que les tests de dépistage seront priorisés. Le protocole sanitaire à l'école, lui, sera allégé aujourd'hui. Un jeune homme franco-turc de 23 ans était jugé hier à Bourg-en-Bresse pour provocation publique à la haine ou à la violence envers les Arméniens. Le 24 juillet dernier, près de Lyon, un groupe de jeunes turcs armés avait perturbé une manifestation de la communauté arménienne. Ils avaient saccagé un commerce. L'audience hier était suivie par Mathilde Imberti.
C'est pour une vidéo que le jeune homme est poursuivi, un live sur Instagram du 24 juillet au moment des incidents près de Lyon. Le prévenu y dit que le gouvernement turc me donne 2000 euros ou une arme et je ferai ce qu'il y a à faire. Les associations arméniennes y voyant une incitation à la violence se sont portées partie civile. Janine Paloulian est la vice-présidente du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France.
Chez nous, même pour les rescapés, même pour les descendants, ça résonne très fort. Ce qu'il y a à faire, c'est refaire les gestes de 1915. Ça réveille tous les souvenirs de déportation de nos ancêtres. Bien sûr, ça va chercher au plus profond de nos entrailles pour remettre du sel sur la plaie qui, quelque part, envie de se re-cicatriser, mais elle se cicatrisera qu'avec la vérité.
Pour sa défense, le prévenu assure que la phrase sur les 2000 euros et les armes a été sortie de son contexte, qu'elle n'était pas haineuse. À 23 ans, ce jeune homme à l'allure élégante, agent d'entretien en CDI, nie appartenir au groupe nationaliste des Loups Gris. Par contre, il a été candidat aux élections législatives en 2017 pour le parti Égalité et Justice, proche du président turc Erdogan. Quand l'avocat adverse lui demande s'il reconnaît le génocide arménien, il répond « Je ne suis pas historien. Le procureur requiert à son encontre 6 mois de prison avec sursis. La contre-manifestation de militants turcs armés du 24 juillet dernier qui a tenté d'effrayer les Arméniens de Lyon devrait faire l'objet d'un procès ultérieur.
Une réunion de campagne avec des militants dans leur voiture, comme un drive-in au cinéma. Le démocrate américain Joe Biden a retrouvé la foule hier à 1 mois et demi de la présidentielle dans le pays. Face à lui, le président Donald Trump, qui lui a déjà multiplié les meetings. Une campagne qui s'accélère quand une partie de l'Amérique commence à voter en personne aujourd'hui, Loïc Loury.
Aller déposer un bulletin dans l'urne comme si c'était le 3 novembre au bureau de vote du coin, ce sera possible dès aujourd'hui dans 4 États américains. Dès demain, 3 autres suivront, puis une grosse trentaine dans les semaines à venir. C'est à chaque territoire de fixer sa date. La plupart des États permettent ce early voting sans que le votant n'ait besoin de se justifier. Le système n'est pas nouveau, mais il sera plus important avec la pandémie pour les électeurs qui ne veulent pas voter par courrier mais ne souhaitent pas pour autant aller faire la queue dans 6 semaines, vu le contexte sanitaire. En 2016, 4 votes sur 10 avaient été enregistrés en amont de l'élection. Ce pourrait être 6 sur 10 cette année, principalement des votes par courrier, car plus que le vote en personne, c'est ce dispositif postal qui devrait exploser. 80 millions de votes à distance selon les projections, plus du double de la dernière présidentielle. La promesse d'un comptage compliqué alors que Donald Trump alimente sans preuve la psychose autour de fraudes massives. Il faudra peut-être attendre au-delà du 3 novembre pour connaître le nom du nouveau président américain.
Et cette campagne américaine fait donc craindre le pire aux commentateurs politiques. Nous y reviendrons plus longuement avec la revue de presse internationale tout à l'heure sur France Culture à 7h35. Avant cela, arrêtons-nous en Libye où le chef du gouvernement légal reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, a demandé hier de démissionner avant fin octobre si possible. Mais pourquoi ? Élément de réponse ce matin avec Nabila Hamel.
Lutte d'influence au sein de son propre gouvernement, posture, chantage ou volonté réelle de s'éclipser pour laisser plus de chance à une sortie de crise, le chef du GNA a, avec l'appui de milices et l'aide militaire de la Turquie, eu à affronter et à stopper l'offensive de l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar, lui-même aidé militairement par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. Fayez al-Sarraj évoque aujourd'hui des difficultés insurmontables, des partis qui s'obstinent encore à parier sur une solution militaire pour servir leurs objectifs et un climat, dit-il, social et politique extrêmement polarisé. Au plan interne, la grogne contre la corruption et la dégradation des conditions de vie est désormais perceptible partout dans le pays. Elle a d'ailleurs été à l'origine de la démission du gouvernement parallèle de Benghazi lundi. Au plan politique, les protagonistes de la crise actuelle doivent-ils s'effacer au profit d'une nouvelle dynamique ? Les parlementaires des clans rivaux libyens ont en effet repris le chemin du dialogue lors de deux rencontres parallèles tenues la semaine dernière à Montreux, en Suisse et au Maroc, et devraient se revoir à la fin du mois.
Nabila Amel, les averses et quelques orages arrivent par le sud-ouest aujourd'hui. Ailleurs, c'est le soleil qui domine, avec 14 à 23 degrés du nord au sud.